Parking Nomade.
Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parking Nomade, le magazine qui s'intéresse à la littérature tous azimuts. Aujourd'hui, je reçois le romancier Éric Dupont à l'occasion de la parution de son plus récent roman, La fiancée américaine, aux éditions Marchand de Feuilles. Alors, La fiancée américaine, c'est un roman magnifique et touffu, non pas débridé, cependant, puisqu'à chaque instant, on sent l'auteur bien en selle et qui tient en la bride à ses créatures et aux histoires qu'il leur prête. Mais comme tout grand roman, La fiancée américaine ne se laisse pas résumer facilement. On va tout de même, chers auditeurs, tenter de vous donner un os à ronger. Et bien sûr, je vais me faire aider par l'auteur, après tout, le mieux placé pour faire cet exercice. Éric Dupont, bonjour.
Bonjour, Marie-André.
Bonjour. Alors, La fiancée américaine, elle apparaît au début du livre parce que c'est par elle que tout commence, tout, c'est-à-dire la lignée de Louis Lamontagne de Rivière-du-Loup, d'ailleurs qui à l'époque s'appelait Fraserville au moment des faits. Louis Lamontagne, il naît le 25 décembre 1918, mais en fait, ce n'est pas la lignée, c'est moins la lignée de Louis Lamontagne que celle de Madeleine Lamontagne, fille de Louis, qui naît dans les années 50 et qui, dans les années 90, se trouvera à la tête d'une chaîne de restaurants, je résume à grands traits là, une chaîne de restaurants spécialisée dans les petits déjeuners copieux. Et la chaîne va devenir nord-américaine et cela va faire d'elle une femme d'affaires redoutable, efficace, riche. C'est la success story à l'américaine. Mais on n'a rien dit quand on a dit cela concernant le roman. Alors, on va reprendre, si vous voulez bien. Qui est cette sémillante jeunesse de 17 ans, presque une fiancée achetée sur catalogue, que Madeleine Lamontagne, l'ancienne, parce qu'il faut savoir qu'il y a une Madeleine Lamontagne par génération dans cette famille, oui. Donc la grand-mère, a décidé de faire venir, en quelque sorte, et qu'elle va cueillir à la gare un jour. Qui est cette fiancée américaine?
Je vais vous dire bien franchement, je n'en suis moi-même pas trop certain. Parce que ce qu'on sait, c'est que Madeleine Lamère, celle dont vous venez de parler, donc voulait en 1918 marier son fils aîné, Louis Benjamin, à une Madeleine. Il fallait qu'elle s'appelle Madeleine. Bon, d'abord, elle en avait trouvé une à Kamouraska qui a eu la mauvaise chance de mourir de la grippe espagnole. Ensuite, elle s'est souvenue qu'elle avait un frère aux États-Unis qui avait adopté une petite Madeleine. Et elle a écrit à ce frère. Et comme toute réponse, ou pour toute réponse, est arrivée cette Américaine, cette Madeleine. Donc, on se doute bien que c'était fort probablement, oui, la fille adoptive du frère de Madeleine Lamère. Mais...
Et ce frère, et si j'ai bien compris toute la filiation, il est établi aux États-Unis.
Oui,
c'est un franco-américain.
Oui, c'est ça. C'était un frère qu'elle avait perdu, c'est-à-dire qu'il était déménagé comme beaucoup de
Canadiens français
ouais. Aux États-Unis, et avec lequel elle entretenait encore une correspondance rare, mais bon, elle lui écrivait de temps en temps. Elle ne savait pas trop écrire, de toute façon, elle demandait au prêtre. Et comme toute réponse, c'est cette Madeleine qui arrive. On est à peu près à 90% sûr que c'est elle, que c'est la fille adoptive du frère de Madeleine Lamère. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que jamais dans ce roman, on est sûr de quoi que ce soit. Et ça faisait partie de mes petites lubies pendant l'écriture, c'était de ne jamais donner au lecteur une certitude absolue.
Quant au personnage?
Quant à plusieurs choses, quant à de laisser les choses un peu dans le flou pour que l'imagination puisse se mettre en branle, que le lecteur puisse lui-même s'imaginer d'autres origines à cette fiancée américaine.
Ouais, ouais.
Ce qu'on sait, c'est qu'elle ne parlait pas français.
Ouais. Mais vous, romancier, alors laissez les choses dans le flou, un flou, on imagine, soigneusement aménagé. Mm-hmm. Mais vous, romancier, vous saviez où vous alliez chaque fois, non?
C'est-à-dire que j'ai émis le doute dans le roman que la fiancée américaine, que cette Madeleine venue des États-Unis ne soit pas celle à qui on s'intéressait, c'est-à-dire que ce soit une personne, une usurpatrice. Et c'est peut-être le cas. C'est peut-être ça qui s'est produit, mais moi, je ne le saurais pas.
Oui, il y a un doute fécond.
C'est-à-dire qu'une lettre a été envoyée, une femme est revenue, voilà.
Et au lecteur, après, de se construire.
Une femme est arrivée qui ne parlait pas français, qui savait très, très bien cuisiner.
Et qui était très jolie.
Qui était très jolie, très plaisante et croyante, et qui connaissait ses prières catholiques. Donc, on l'a gardée.
Oui. Et le fils, au grand bonheur du fils, d'ailleurs.
Au grand bonheur du fils. Lui, il n'en demandait pas plus.
Oui. La fiancée américaine... Alors, on ne va pas entrer, évidemment, dans tous les détails, parce que la fiancée américaine est tout sauf un roman régionaliste, même si on parle de Rivière-du-Loup au début du 20e siècle. L'action, c'est vrai, se déroule en partie à Rivière-du-Loup, mais elle se déplace aux États-Unis, à Rome, à New York, donc aux États-Unis, je l'ai dit, mais en Allemagne aussi, il y a toute une séquence germanique, et même au Japon. Donc, moi, je dirais que c'est un roman continental, c'est-à-dire qu'il y a deux continents, l'Amérique du Nord et l'Europe, avec l'incursion du côté de l'Asie, encore que ce soit plutôt par la bande. Et là-dessus, il y a la Seconde Guerre mondiale qui va plomber les destins. Et malgré tout, donc, malgré ce que je viens de dire, c'est un roman qui renvoie à une identité proprement canadienne-française. Et cette identité n'a rien d'étriqué. Est-ce ainsi que vous la percevez? Quelle est votre vision de l'identité canadienne-française? Je ne dis pas québécoise pour le moment, en tout cas, on y viendra, mais...
Mais c'est, moi, ce que je voyais dans les recherches que je faisais pour situer... qu'on sache tout de suite que tous ces chapitres sur Rivière-du-Loup, tous les chapitres sur Louis-la-Montagne, dans le plan initial, ne devaient pas être aussi longs. Je me suis un peu laissé emporter par le résultat de mes recherches et puis par l'enthousiasme aussi. Ce que je trouvais dans mes recherches sur ces Canadiens français, ces gens qui vivaient dans les années 20, 30, au tournant du siècle, belle époque, etc., c'était non pas une version, comme vous dites, une vision étriquée ou une personnalité étriquée. C'était beaucoup plus des gens dont le travail était la première préoccupation. Enfin, ceux... pour lesquels j'avais des documents, et qui avaient conscience de vivre dans un continent magnifique, immense, et qui n'avaient pas ce... Je ne leur prêterais pas le pessimisme que d'autres leur prêtent.
Une certaine image de cette époque leur prête. Parce que j'ajoute que j'ai dit qu'ils n'avaient rien d'étriqué,
voilà,
précisément.
Voilà, c'est ça.
C'est tout le contraire.
On dit souvent que le Québécois est un être qui est divorcé de son passé, qui est séparé de son passé, qu'il n'y a pas accès. Qu'à un moment donné, pendant la Révolution tranquille, on aurait reçu un coup de poêle à frire en arrière de la tête, puis qu'on aurait tout oublié. Et que cet oubli serait la cause de tous nos maux, de tous nos problèmes de mémoire, qu'on ne sait pas où on s'en va parce qu'on ne sait pas d'où on vient. Moi, je voudrais tempérer un peu cette idée reçue ou cette espèce de lieu commun sur cet oubli collectif qu'on aurait vécu. Moi, je pense que nous nous souvenons de notre passé, nous y avons accès. D'ailleurs, nous avons des supports mnémoniques que les générations antérieures n'avaient pas. Et nous avons, je crois, un accès... celui qui veut avoir accès à son passé de Québécois, y a accès, je crois que c'est là. Et j'ai voulu justement montrer des personnages qui n'étaient pas pris dans l'étau de l'histoire ou qui n'étaient pas présentés comme des victimes canadiennes-françaises d'une oppression anglaise ou religieuse. Non, c'était des gens qui vivaient dans ce monde très religieux, oui, dans ce monde dominé par les Anglais, oui, mais qui étaient aussi très heureux.
Oui. Les femmes, les mères sont terribles. Je parle de votre roman, là. Oublions un moment l'histoire du Québec. Il y a bien sûr Madeleine Lamontagne. En tant que figure maternelle, elle est assez terrible. Il y a d'autres mères, la mère de Stella, par exemple. Alors, quelle est la vision de la mère que vous avez voulu... D'abord, y avait-il une vision de la mère que vous avez voulu transmettre?
Oui, oui, c'est la vision, je dirais, Jézébel, celle qui... c'est la mère un peu consciente de son pouvoir et qui est prête à en user aussi pour arriver à ses fins. Bon, vous parlez de la mère de Stella Thanatopoulos, qui est épouvantable. Je dois vous dire que malheureusement, pour avoir été professeur au secondaire dans certaines de ces écoles un peu élitistes, j'ai vu des mères se comporter à peu près de cette façon envers leurs enfants. Et C'était parfois, oui, des mères grecques, mais pas toujours. Mais il y a eu une mère en particulier que j'ai vue qui se comportait de cette façon avec ses enfants.
Mais dans la petite, beaucoup d'eux. Oui, mais dans la petite histoire, enfin, dans les images, encore une fois, les images d'Épinal, les clichés que l'on entretient à l'endroit des mères, en fait, c'est la mère méditerranéenne, la mère juive, la mère grecque, comme vous dites, la mère italienne. Et du coup, la mère canadienne-française serait par là, au fond, méditerranéenne, latine en tout cas.
Ah, peut-être, oui, peut-être qu'on pourrait faire le lien de cette façon-là. Il y a aussi cette relation entre la mère, entre Madeleine Lamontagne et sa mère, qui ne s'appelle pas Madeleine, mais Irène Caron, que j'ai trouvée assez intéressante parce que, en fait, ce qui m'agaçait un peu dans les récits du passé, c'était souvent ces gens qui nous parlent de leurs parents qui allaient dans des couvents où ils étaient battus par des religieuses ou opprimés par des religieux, et où le parent, soudainement, on a ça dans quelques romans québécois, je ne vais pas nommer lesquels, où le parent se présente à l'école pour remettre la sœur à sa place, pour remettre la prieure ou le frère à leur place et leur dire « Écoutez, vous n'allez plus toucher à ma fille. » Ça, je m'excuse, mais d'après ce que j'ai pu constater, c'était pas ça qui se passait du tout. Les gens qui étaient, les enfants qui étaient battus ou qui étaient frappés par des religieux, le cachaient à leurs parents de crainte d'être frappés par les parents. Pourquoi? Pour avoir été frappé à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Quand l'enfant rapportait à ses parents la violence dont il avait été victime à l'école, le parent ne le consolait pas. Il le frappait parce qu'il avait fait honte à la famille. Voilà. Et jamais un parent, ou jamais, ou rarement un parent se présentait au couvent pour aller remettre les sœurs à leur place. Non. On envoyait les enfants chez les sœurs pour que les sœurs mettent les enfants à leur place. C'est pour ça qu'on les envoyait au couvent. Et quand les sœurs frappaient, on se disait, bon, ben, c'est un moyen de les remettre à leur place. Et c'est un peu ça que j'ai voulu exprimer dans la scène, justement, où Irène Caron se présente au couvent pour parler de cette histoire de Chinois à vendre, là, à 25 cents.
Les petits Chinois de la Sainte-Enfance.
Où sa fille a été frappée le jour même à l'école. Elle a été frappée vraiment très, très fort par une férule, là, par la sœur Sainte-Alphonse. Et la mère de Madeleine se présente au couvent, non pas pour se plaindre des coups que sa fille a reçus, mais pour se plaindre du fait que le prix des Chinois a augmenté.
Éric Dupont, on le voit par les exemples que vous donnez, il y a une forme, il y a plusieurs formes d'érudition sociale, historique, culturelle, musicale, qui sont mobilisées, mais d'heureuse façon dans ce roman. Donc là, on a l'exemple des petits Chinois, ça renvoie à un pan du passé canadien-français que la plupart des lecteurs aujourd'hui ne peuvent pas soupçonner. Mais je pense aussi à d'autres références du Canada français, rural, catholique, dans chacun des aspects de sa vie. Vous avez parlé tout à l'heure des recherches que vous avez menées. Elles ont été drôlement efficaces. Il faut dire pour l'auditeur que vous êtes né en 1970 à Amqui, en Gaspésie. Donc, vous n'avez pas, on l'imagine, une connaissance de première main de cette époque, certainement pas, mais peut-être de membres de votre famille, combinés à des recherches. Qu'avez-vous gardé de votre enfance dans cette peinture de Fraserville que vous faites des années 20 puis des années 30? Est-ce qu'il y a des voies, des vases communicants entre le Amqui des années 70 et le Fraserville des années 30?
Voilà, tout le bas du fleuve et la Gaspésie des années 70, c'est ce que j'ai pu garder dans le roman. Non, peut-être, sauf des observations qui n'ont pas changé au cours des générations. Par exemple, à un moment donné, je crois que le narrateur dit que ce que Solange et, après leur déménagement à Montréal, ce que Solange et Madeleine ont gardé de leur région, c'est une obsession pour le travail et la propreté et des voyelles écourtées. Voilà. Parce que s'il y a une chose qu'on remarque quand on vient du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, c'est que les intérieurs sont d'une propreté irréprochable. Chez les gens, les gens sont très, très fiers de la propreté de leur maison. Et on le constate quand on arrive... je ne veux pas dire que Montréal est sale, là, c'est pas ce que je veux dire, mais quand on se met à voyager, on se rend compte que ce souci de la propreté n'est pas inscrit dans toutes les cultures de la même manière. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne récure pas les mêmes surfaces partout. Et il y a ça que j'ai pu garder ça, j'ai pu observer ça, petit garçon, dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Aussi, c'est...
Vous faites des remerciements à votre propre mère aussi, oui, de ses souvenirs. Elle a partagé de ses souvenirs d'enfance.
Ma mère fait partie de ces femmes que j'ai interviewées. Il y en avait 4 ou 5 où je me promenais avec ma caméra. Des femmes qui avaient vécu les années 50-60 dans l'Est du Québec et auxquelles je posais des questions très précises comme où achetez-vous vos vêtements? Quels étaient vos rêves? Qui vous avez embrassé pour la première fois? Ce genre de choses très, très...
Parce qu'après tout, il s'agit aussi d'un roman réaliste, en tout cas une veine réaliste.
Oui, il y a une veine réaliste,
même si il y a une dimension picaresque et autre chose. Mais vous êtes-vous demandé si les nombreuses références qui parsèment votre roman, les références religieuses notamment, seraient toujours intelligibles aux jeunes lecteurs aujourd'hui? Je pense par exemple aux usages du Tédéum à un moment donné, où, dans diverses circonstances, lors d'une épidémie ou de la guerre, ou quand il y a la naissance d'un héritier. Et d'abord le Tédéum, qu'est-ce que c'est très exactement.
D'abord, le Te Deum est venu de mon souci de faire de Tosca, l'opéra de Puccini, le point fédérateur de toutes mes histoires ou de tout le roman. Et il y a dans Tosca de Puccini, à la fin du premier acte, un Te Deum magnifique. Qui est un crescendo absolument extraordinaire, qui est chanté et qui est joué dans l'église Sant'Andrea della Valle, dans l'opéra. Et c'est ainsi que j'en suis venu au Te Deum et où j'ai compris, je me suis mis à parler aux gens de l'Église québécoise, de l'Église canadienne-française, qui m'ont dit on ne le fait plus, mais il y avait, oui, autrefois, des Te Deum qu'on chantait. C'était rare, cependant, mais ça se faisait. Et j'ai inclus ce Te Deum parce que je me disais que, bon, il faut que je reste fidèle à la tradition. Et aussi, surtout... Le Te Deum est là parce qu'il est dans Tosca.
Oui, bien sûr. Mais alors, Tosca, Te Deum, vous êtes-vous posé la question, cette question vous a-t-elle simplement effleuré l'esprit, la question des références de votre lecteur? Comprendrait-il ce que vous mettez en scène de façon aussi habile?
C'est-à-dire que oui, la question m'a effleuré l'esprit et je me suis dit, celui qui voudra comprendre, comprendra. Celui qui ne comprendra pas, n'en souffrira pas. Je vais donc le faire. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, bien sûr. C'est le romancier souverain.
Oui, parce que en écrivant, je savais fort bien qu'il y a des bouts que les gens ne comprendraient pas. Il y a même des petites anecdotes personnelles. Il y a une amie qui m'écrit, une des nombreuses lectrices qui m'a écrit après le livre et qui m'a dit, Éric, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait des études à l'Université de Montréal, parce que je me suis servi du nom d'un de nos professeurs pour le dompteur de fauves. Il y a un dompteur de fauves qui apparaît à un moment donné, le grand Krzyzinski. Et puis, je cherchais un nom polonais et je ne le trouvais pas. Et je me suis dit, je vais prendre Krzyzinski, tiens. Et puis, c'est cette ancienne collègue, Katia, qui m'écrit pour me dire qu'elle avait vu ce Krzyzinski, qu'elle avait vu ce nom dans le livre et qu'elle avait trouvé ça très drôle. Donc, le livre, est truffé de petites anecdotes, des allusions que seuls quelques lecteurs vont comprendre, effectivement, oui.
Quel est le savoir du romancier dans ces circonstances?
Le savoir du romancier, je crois.
Quel doit être le savoir du romancier? Quand il écrit, de façon générale, à quoi tient sa force, au fond? C'est un technicien du récit? C'est aussi un érudit? Comment voyez-vous la fonction de romancier? Cela s'appelle réfléchir.
Oui, effectivement, oui. La fonction du romancier ici est de créer un décor et de distiller savamment et avec finesse le résultat de ses recherches. Parce qu'une fois qu'on a commencé à faire des recherches pour un roman qui se situe en 1950 ou en 1918 ou une scène en 45 ou en 33, bon, vous pouvez fort bien vous imaginer qu'on tombe sur des montagnes de choses. Maintenant, le grand défi pour le romancier, c'est d'aller chercher l'objet ou la référence qui va transcender, qui va de manière synecdotique, autrement dit la partie pour le tout, qui va faire comprendre toute une époque. L'accessoire qu'on sort de ces recherches, des milliers de choses qu'on a trouvées, et qui fait comprendre toute une époque, ou qui sert à monter tout un décor. Par exemple, l'arrivée d'une télévision dans une maison. De la première télévision.
Oui, d'ailleurs, justement, quand la télévision fait son apparition, Madeleine Lamère dit, la grand-mère, donc, croit que c'est la fin des histoires.
Oui.
Est-ce qu'elle a raison?
c'est la fin d'un certain type d'histoire, c'est la fin d'une certaine manière de raconter des histoires et surtout la fin d'une certaine manière de croire aux histoires.
Oui.
Oui, qui est arrivé.
La fiancée américaine est l'illustration à travers quatre générations de l'accélération de l'histoire au Québec, tout de même, qui passe d'un arrière-pays, puisque c'est la campagne, là, rurale essentiellement, peu instruite, au Québec cosmopolite, contemporain, parce que les fils de Madeleine Lamontagne, Gabriel et Michel, vont voyager. C'est le monde qui leur appartient. Il y a tout le passage évidemment en Allemagne, et souvent Gabriel en Allemagne, parce qu'il va se lier d'amitié avec une vieille dame, souvent elle s'étonne de son ignorance. Elle lui dit mais vous ne savez pas ça. D'ailleurs, c'est assez drôle, les répliques. Est-ce qu'il y a là quelque chose de, en effet, de proprement québécois aujourd'hui, l'ignorance du Québécois?
Non, en fait, je suis content que vous souleviez cet aspect-là du livre, parce que ce que je voulais faire remarquer surtout, c'était cette tendance qu'ont les Allemands quand on vit avec eux,
oui,
cette tendance qu'ils ont de vous reprocher de ne pas connaître leur histoire, ou par exemple, je ne sais pas, là j'exagère, là, mais le nom de l'archevêque de Salzbourg en 1912, ou ce genre de choses que les Allemands parfois nous reprochent de ne pas connaître, alors que ce sont des choses qui les concernent eux et pas le reste du monde. Et c'était surtout un commentaire vers ça que je voulais faire, pas une critique de l'ignorance des Québécois, ce n'est pas ça du tout que je voulais faire.
Parce que ça aurait pu être, cette ignorance présumée des Québécois, oui, aurait pu être mise en parallèle avec l'innocence américaine, comme à l'époque d'Henry James, on a pu dire Américains,
oui,
que le nouveau monde, en fait, c'est le nouveau monde par rapport à l'ancien.
Une espèce de candeur américaine, mais vous avez raison. Mais il y a aussi, cette tendance qu'ont, non seulement les Allemands, mais je crois tous les peuples d'Europe, à croire que le monde entier connaît sur le bout des doigts leur histoire et leur réalisation, alors que dans le meilleur des cas, on en connaît les grandes lignes.
Ouais. Éric Dupont, en terminant, est-ce utile de réfléchir au sens de son roman après coup, comme on essaie là de le faire depuis une vingtaine de minutes?
Je pense que oui, je pense que c'est utile de réfléchir au sens de mon roman, parce que ça me ramène à des choses que j'avais oubliées que je voulais faire, c'est-à-dire à des motivations que j'avais oubliées, vous me les rappelez là, et puis ça va me servir dans mon prochain projet d'écriture, c'est-à-dire que je vais pouvoir me poser la question de savoir si ce que j'avais voulu faire a fonctionné ou pas. Voilà.
Donc, ce n'est pas un exercice complètement vain, même quand on est romancier,
non,
où on doit faire appel plus à l'intuition et
oui,
peut-être...
Mais ce que vous savez, ce qui m'étonne dans tout ce qu'on a pu dire sur la fiancée américaine, c'est de voir à quel point les passages sur les chapitres de Rivière-du-Loup ont plu au lecteur. Ça, je ne m'attendais pas à ce que les gens aiment ça tant que ça. Je m'attendais à ce que les gens trouvent ça...
Ringard, peut-être?
Oui, ringard, ouais. Vieux jeu, que c'était genre le temps d'une paix ou quelque chose. Non. Et puis, les gens adorent ça. Ils en redemandent.
Et ils ont aussi, ceux qui adorent Rivière-du-Loup peuvent aussi aimer les chapitres berlinois,
oui,
ou les chapitres,
oui,
allemands, plus généralement,
oui,
ou romains aussi, parce qu'il y a vraiment...
Oui, romain.
Il y a un chapitre romain. D'ailleurs, c'est vers la fin. Donc, Éric Dupont, je vous remercie. On n'a pas dit le quart de la moitié d'un huitième de ce qu'il y a dans ce roman. Je rappelle que vous avez publié donc ce roman passionnant, rocambolesque comme la vie, parce qu'il n'y a rien de forcé. La vie est rocambolesque. La fiancée américaine aux éditions Marchand de feuilles. Voilà qui met fin à Parking Nomade aujourd'hui. L'émission est diffusée à l'antenne de Radio Ville-Marie, à la technique Serge Plaisance, au microphone Marie-André Lamontagne. À la prochaine.
Mm-hmm.